Christelle Pissavi-Hiverneau et David Amram, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collector, La véritable histoire des éditions Dupuis. Un beau cadeau pour les fêtes, hein, ça c'est clair. Le 20 décembre 2022, Dupuis fêtait les 100 ans avec comme point de départ la création de Bonne Soirée. Question naïve, est-ce que le travail a finalement été tellement énorme qu'il vous a fallu 2 ans pour en arriver là, ou est-ce que vous voulez prolonger la fête ?
Non, l'histoire, c'était de... Le bouquin était effectivement prévu pour la grande fête des 100 ans, puis pour des raisons internes, il a été reporté. Et nous, on a profité de ce temps-là, comme vous avez vu, le sommaire était exigeant, et on a profité de ce temps-là pour aller un peu plus loin. À l'origine, la demande de Dupuis était de faire un livre qui reprenne toute l'histoire éditoriale avec des capsules de 2000 signes à peu près, donc trois fois rien. Donc on se dit ok, allons-y, fastoche, les doigts dans le nez. Sauf que donc on a fait le sommaire et puis on a pris, on s'est réparti les sujets, on a choisi les collaborateurs, etc. Et puis quand on a commencé à travailler dessus, chacun de notre côté, on s'est tous dit « mais ça rentre pas en 2500 signes, là c'est impossible de parler de la CEP en 2500 signes et de parler de l'histoire des rédacteurs-chefs du journal, etc. » On avait tous explosé notre quota. Donc le livre a commencé là, déjà à ce moment-là, à prendre une autre envergure. Et puis effectivement, lorsqu'il a été reporté, on s'est dit « bon ben voilà, on a un temps... indéterminé devant nous, profitons-en, surtout David qui du coup a eu envie de prolonger certaines recherches autour de Bonne Soirée et de toute l'histoire éditoriale des années 80.
C'est ça, on a découvert de nouveaux territoires à explorer au fur et à mesure des recherches. Le report en fait était une bonne nouvelle pour nous puisqu'on a pu aller bien plus loin dans des endroits finalement peu étudiés, comme Christelle évoquait la CEP qui était la société de dessin animé de Dupuis dans les années 70, ou encore l'histoire des produits dérivés, les romans, les livres pour enfants, les Bonnes Soirées, le Moustique, les revues néerlandophones, autant de choses qui n'étaient pas finalement c'était initialement prévu, mais comme le travail qui avait été fait dessus auparavant était assez succinct. C'était des choses sur lesquelles il y avait beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à dire. Et donc on a profité du délai pour explorer un peu plus ces zones méconnues de l'éditeur. J'ai profité personnellement moi, de ces 2 ans aussi pour faire un inventaire des archives des éditions Dupuis, sortir des documents qui montrent un petit peu la cuisine de l'édition, que ce soit les films utilisés pour imprimer les bandes dessinées, des lettres qui montrent parfois des désaccords entre les dirigeants.
Des maquettes,
qui montrent vraiment comment on fait des livres, comment on les conçoit matériellement. Donc ça, c'est intéressant.
En fait, c'était déjà la deuxième fois qu'on fête finalement les 100 ans, puisque en 98, il y avait quand même eu déjà un ouvrage sur Spirou, non ? Donc, c'était quoi ?
Ah, mais ça, c'est la magie de Dupuis. C'est-à-dire qu'on crée on des anniversaires. L'histoire est tellement riche qu'on peut prendre des repères très différents. Peut-être qu'on peut imaginer aussi les 100 ans de la création
d'imprimerie, c'est ça.
En fait, il y a eu. Là aussi, c'est ce que nos recherches ont permis de mettre en évidence, c'est que jusqu'à présent, il y avait l'idée qu'en 1898, c'était la création de l'imprimerie Dupuis, et en 1922, la création de la maison d'édition avec les Bonnes Soirées. En réalité, la différence entre les deux n'est pas aussi nette. Jean Dupuis a fait des livres avant 1922 qu'il considérait avoir fait comme éditeur, et de même, quand il lance les Bonnes Soirées en 1922, les Bonnes Soirées sont labellisées imprimerie des Bonnes Soirées. Donc finalement la limite entre les deux, elle n'est pas aussi nette. Ces dates universitaires sont surtout des repères qui permettent ce genre d'ouvrage, ce genre de travail, et on a remis en question beaucoup d'idées reçues sur Dupuis, à commencer par ces dates-là, et donc ça fait partie de nos petites trouvailles.
Ouais. Parce que c'est vrai que le 23 novembre, c'était Moustique aussi.
Mais oui, ça n'arrête pas. Mais on a bien conscience que ce livre, voilà, justement... on ouvre plein de portes, justement, parce que chaque sujet, chaque chapitre mériterait d'avoir un livre de 300 ou 400 pages chacun. Et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, nous, on a été pris dans un étau avec ce livre-là où il fallait être exhaustif, enfin, complet, mais sans avoir la possibilité d'être exhaustif, ni possibilité en termes de volume ou de temps, ni même de moyens, parce que il y a beaucoup de questions aussi qui resteront à jamais sans réponse. Et ça, il y a quand même une frustration. Donc.
L'un des grands avantages de cet ouvrage, qui est un tour d'horizon, une sorte de mappemonde complète, c'est de mettre en lien des sujets qui, lorsqu'on fait un ouvrage trop spécialisé, ne sont pas mis en rapport les uns avec les autres. Et là, pour la première fois, dans un même ouvrage, on voit une publication de 1930 qui est un roman à la gloire de la famille royale. On retrouve dans le même ouvrage comment on fait une bande dessinée numérique aujourd'hui. Et en fait, c'est cette connexion-là dans un univers industriel de l'édition que permet ce genre d'ouvrage globalisant et qui donne un point de vue passionnant est différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir.
C'est vrai que dans la véritable histoire de Spirou, avec Bertrand, notre approche est chronologique. Et pour l'heure, on s'est arrêté à 1955.
C'était en 2013, ça, hein. Ouais.
2016, le second.
16.
Ouais. 2016, et là, on a repris le troisième. Mais la véritable histoire de Spirou raconte l'histoire du journal, il raconte l'histoire des auteurs qui ont présidé à Spirou, peut raconter l'histoire des rédacteurs-chefs, etc. Mais c'est en toile de fond. Alors que là, justement, la véritable histoire des éditions Dupuis, là, c'est vraiment l'histoire éditoriale qui permet de raconter des choses qui ne trouvent pas leur place dans la véritable histoire de Spirou. Donc, c'est des approches complémentaires.
Comment passe-t-on, David, d'anti-reflux à être finalement biographe de la maison Dupuis ?
Alors, Anti-reflux, c'est la petite bande dessinée que j'ai fait aux éditions Cornelius. C'est un comics, on va dire, alternatif, un petit peu dans la lignée de ce que fait Julie Doucet et d'autres auteurs comme Joe Matt.
C'est du 180 degrés.
Et donc, ça n'a aucun rapport avec le travail d'historien que je fais. Mais j'ai toujours eu cette double approche d'historien de la bande dessinée et d'auteur un peu expérimental, bizarre.
C'est un garçon complexe.
Et... moi, ce qui, je pense en fait que quand on, alors, j'essaie de faire des bandes dessinées qui m'intéressent, avec l'approche qui est la mienne, qui peut ne pas parler à tout le monde, mais en fait, c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se fait, on va dire dans le mainstream, dans l'édition grand public. Je pense qu'il n'y a pas de position artistique qui puisse exister. En toute ignorance de ce qui se fait dans l'édition grand public. Et mon côté historien me permet de d'en savoir plus sur ces zones-là.
Christelle, il y avait aussi en 2022 avec Alex Vizorek, vous avez fait sur France Inter. Là, non,
oui, il y avait ce podcast sur Jean Doisy
qui est autant en emporte-histoire,
effectivement. Bah, Jean Doisy, lui, c'est donc le premier rédacteur en chef du journal de Spirou, qui était aussi rédacteur en chef du Moustique, qui a été résistant, un parcours exceptionnel, créateur de Fantasio, de Ballardi, qui a donné les bases du journal de Spirou, vraiment toute l'insolence du journal de Spirou et son esprit humaniste, c'est à Doisy qu'on le doit. Et effectivement, avec Bertrand, on avait mis en avant sa personnalité, son parcours dans la véritable histoire de Spirou. Et depuis, il n'en finit pas d'intriguer, d'intéresser. Il y a eu cet épisode de Autant n'importe l'histoire qui était un docu-fiction. Il y a aussi Émile Bravo qui s'en est inspiré pour L'espoir malgré tout, puisque à Doisy, on doit la création du théâtre du Farfadet qui cachait un réseau de résistants pendant la guerre. Et donc, L'espoir malgré tout, qui a donné lieu à cette grande exposition mémoriale de la Shoah, où Doisy était mis en vedette, etc. Voilà, il y a aussi les amis de Spirou, de Morvan et David Évrard, qui, en filigrane, racontent la guerre de Jean Doisy. Voilà, c'est chouette de savoir que le travail qu'on peut faire autour des petits Mickey peut avoir une résonance sur des parcours aussi exemplaires que celui de Doisy. Et c'est toujours émouvant, justement, de savoir que...
Il y a une monographie sur Delporte aussi.
Oui, ça, c'était avant encore.
Ouais.
Ouais. Bah, c'est intéressant, justement, de se pencher sur des parcours d'hommes exceptionnel. À titre personnel, ça permet d'abord de se nourrir de leur esprit.
De rendre plus humain, tout ça.
Alors, se nourrir de leur esprit, être habité par leur parcours, ça permet justement une espèce d'empathie qui permet justement de mieux restituer leur état d'esprit et d'être plus... plus dans la communication. On n'est pas, quand on parle de ces hommes-là, on n'est pas dans une histoire industrielle. Forcément, il faut l'incarner. Et forcément, pour incarner des hommes comme eux, il faut vivre avec.
finalement, ce que la véritable histoire des éditions Dupuis fait en resituant ses parcours très humains au sein d'un groupe éditorial ou d'un monde éditorial plus large et parfois mu uniquement par des impératifs de rentabilité, bah, ça ne fait que ressortir encore plus leur rapport et leur fougue ou leur intérêt. Jean Doisy ou Yvan Delporte sont vraiment des figures qui détonnent par rapport à la mission originelle des éditions Dupuis. Donc c'est vraiment des choses très intéressantes, et le travail que Christelle et Bertrand ont mené sur Delporte et sur Doisy a initié une recherche qui en fait est infinie, et c'est ça qui est intéressant, c'est de toujours retrouver des choses sur Doisy. Pour notre livre, on avait trouvé un entretien avec Doisy qu'on connaissait pas, dans lequel il montre qu'il décide de s'adresser aux jeunes sans les prendre pour des idiots. Et...
Oui, c'est avec un discours très, très moderne, justement, oui. Où il moque la comtesse de Ségur, etc., et tous les grands anciens. Voilà, ça révèle à chaque fois...
Pour Delporte, ici, on a creusé un peu plus son activité syndicale. On a pu la mettre en rapport avec celle de Peter Middeldorp, qui était un rédacteur de Robe 12. Donc finalement, le travail initié par Christelle et Bertrand, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut toujours être surpris par ces sujets-là. Ils ont mis le doigt sur des sujets qui sont infinis.
Oui, mais avant nous, il y avait Thierry Martens, qui a fait un travail qui était... Qui était important, sur lequel on a basé nos recherches. Donc on est dans une espèce de
continuité.
Voilà, Martin, fait partie de ces pionniers justement qui ont œuvré pour qu'on puisse raconter l'histoire de la bande dessinée. Et c'est important justement de savoir qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne et qu'après nous viendront d'autres personnes qui iront encore plus loin. Et qu'on est juste dans la transmission, qu'on est qu'un maillon.
Vous avez eu les clés du royaume. Est-ce qu'il y a un accès limité? Est-ce qu'on a déclassifié comme à la CIA?
Alors ça dépend. ça dépend des périodes. Là, en ce moment, il y a un programme de classement des archives Dupuis, d'inventaire, avec une numérisation de toutes les archives de Thierry Martens, qui a légué à Dupuis ses archives professionnelles, tout comme Philippe Vandouren. Et moi, j'ai personnellement numérisé toutes les archives professionnelles de Thierry Martens, et j'aimerais mettre en place justement une plateforme pour les chercheurs qui pourraient accéder à ces documents-là. Déclassifié, oui et non, c'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'il faut encore révéler les échanges qu'il y a eu en 2006 ou en 2005 auxquels j'ai eu accès et qui mettent en jeu des personnes bien vivantes qui ont évidemment le droit de regard sur leur correspondance privée.
Jean Dupuis s'était lancé dans l'édition pour diffuser l'idéologie catholique et le patriotisme belge. À quel moment s'est effectué ce changement, cette ouverture sur le monde ?
Ça s'est fait progressivement, d'abord par l'intermédiaire de Charles Dupuis, son fils, son propre fils, le Benjamin, qui lui rêvait un peu de s'échapper de ce carcan familial, même si il a grandi dans cet environnement bien pensant. Il avait une fantaisie et un goût pour la modernité qui c'est par son intermédiaire que des personnes comme Rosie, comme Yvan Delporte ont pu justement amener de la vitalité et amener la maison ailleurs. Donc tout ça est une lente progression. Et c'est vrai que lorsque Paul Dupuis vire Yvan Delporte en 68, qui est-ce qu'il met à sa place ? Thierry Martens, qui avait de la fantaisie certes, mais une rigueur que n'avait certainement pas Delporte, et encore moins les mêmes idées politiques. Donc voilà, c'est des choses qui... d'équilibre en déséquilibre que la maison Dupuis a évolué. Et il n'y a pas, je pense que depuis l'après-guerre, ça n'a jamais cessé. Alors évidemment, il y a des marqueurs, hein, comme la vente à Albert Frère, comme la vente à Média Participation, puisque à chaque fois, c'est quand même d'autres états d'esprit qui influent sur la direction de la maison. Mais voilà, ça n'a jamais cessé. Et dans cet ouvrage, justement, j'ai aimé cette petite comparaison, déjà, qui montre le saut dans le temps entre les premières publications de Jean Dupuis, dans lesquelles il mettait un avertissement en ouverture des romans, dans lesquelles il disait qu'il pouvait être mis entre toutes les mains, qu'il n'avait pas été mis à l'index. Quand on parle d'index, on parle vraiment de censure et ça peut faire froid dans le dos. Donc on voyait ces avertissements-là et la couverture de Soda, Fureur chez les Saints ou Lettre à Satan. Quelques décennies plus tard, on vous dit ouf.
Même dans la revue la plus conservatrice, Les Bonnes Soirées, il y a quand même au moins en apparence un saut visuel, puisque Les Bonnes Soirées ont été créées avec Jean Dupuis, qui était inspiré par le chanoine Parot, qui voulait diffuser des fictions populaires morales.
C'est-à-dire qu'on laissait les femmes là où elles étaient et voilà. Qu'elles surtout pas se rebeller contre l'ordre établi.
L'idée, c'était vraiment de contrôler les ouvrières, quoi. Et on a fait ce petit jeu dans la maquette où on a mis la photo du chanoine Parot, donc qui est à l'initiative de toutes les maisons d'édition Dupuis, en face d'une maquette des Bonnes Soirées avec une jeune fille avec un t-shirt écrit "Êtes-vous émancipée ?" Donc il y a quand même une évolution.
Il y a la symbolique de la fameuse quatrième place aussi. Là.
Oui.
Ah, Jean Dupuis.
C'est
forcément,
ça.
Oui.
C'est ça, c'est le trio des enfants de Jean Dupuis.
Oui, c'est ça.
On laissait effectivement des personnes comme René Hénoumont, comme Yvan Delporte, finalement prendre une place importante qui était dans leur bureau, une place laissée vacante, qui était celle du fondateur,
du patriarche.
Dans les années 50, on découvre l'importance de la narration du rôle du scénariste. C'est incroyable qu'il ait fallu attendre.
Mais parce qu'avant, c'était les auteurs, les dessinateurs qui inventaient, c'était publié dans la presse, c'était improvisé, et que ce soit, on parle là de la bande dessinée franco-belge, mais on parle de la bande dessinée américaine, c'était le même principe. Et donc, ils publiaient la petite semaine, ils improvisaient leurs récits, et c'est après quand progressivement, les auteurs devant produire de plus en plus, ils se sont dit non, mais là je peux pas tout faire, et donc ils ont fait appel à des scénaristes. Donc le métier de scénariste, c'est vraiment construit à la marge, et peu à peu, des scénaristes importants ont fait des revendications. Rosie, Greg, puis Goscinny. Mais quand on voit aujourd'hui que les scénaristes, 70 ans plus tard, les scénaristes ont encore du mal à exister, que c'est toujours les dessinateurs qui prennent la place, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à prendre, il y a encore aussi beaucoup de choses à faire pour la reconnaissance du métier de coloriste, autant de créateurs. Qui font une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est un dessinateur, mais c'est aussi sans scénario, il n'y a pas d'histoire. Cette histoire peut exister avec ou sans couleur, mais quand elle existe avec couleur, on voit bien que quand on choisit un coloriste, eh bien, il y a des intentions, il y a des parties prises, ça donne le ton à une histoire, ça peut participer aux ambiances ou carrément détruire le travail du dessinateur si le mariage n'est pas bien fait. Donc là encore, voilà, on parle du métier de scénariste, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
C'est vrai que le dessinateur était roi à une période, et que justement, ceux qui faisaient figure de scénariste ne pensaient pas dans le mode de découpement ou dans le langage, on va dire, de la bande dessinée. Des gens comme Doisy ou comme même Luc Bermard, c'était des hommes de lettres qui ne pensaient pas en bande dessinée. L'apport de Rosie, de Goscinny, de Greg ou de Tillieux a été véritablement finalement de penser en dessinateur. Et
parce qu'ils étaient eux-mêmes dessinateurs.
Voilà, Charlier aussi. Et donc ça a été ce changement-là aussi, une professionnalisation du métier en même temps qu'un développement des scénarios et de leur structure qui se détachait en fait de ce côté improvisé qu'insufflaient les dessinateurs.
Oui, la construction du récit permettait aussi d'aller plus loin, d'installer un véritable propos.
Il y a tout un cheminement en fait de l'évolution du scénario, même chez Dupuis, avec cette idée d'aventure humoristique. Et parmi un des moments importants, c'est Tillieux, Maurice Tillieux, qui en vient à être un des scénaristes les plus importants, et qui va finalement former, en quelque sorte, d'autres scénaristes comme Desberg ou Bruyère, qui vont faire basculer la bande dessinée chez Dupuis vers quelque chose de peut-être plus adulte, avec des thématiques en tout cas plus adultes.
Ce qui est assez remarquable aussi, c'est la surfer sur les vagues et en même temps suivre l'évolution, comme notamment l'approche de l'audiovisuel avec Bellevision, avec comme directrice actuelle donc Raphaël Injuet, Keywall, Dreamwall aussi, et qu'on voit maintenant Marsupilami. Qui vient chez Lachaud, Largot il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte aussi, c'est que grâce au Tax Shelter, Dupuis avait même investi dans le cinéma qui n'avait rien à voir avec ses personnages, notamment dans le film de Lucas Bellevaux. C'est fou, quoi, ça.
En fait, l'histoire de l'audiovisuel chez Dupuis, elle est assez chaotique. Elle a commencé avec un petit studio fait de briques et de brocs, dirigé par Rosie, Jean Delire et Eddie Rissac, avec du cinéma en stop motion, c'est-à-dire c'était des papiers découpés qui faisaient office de films d'animation. Et ça s'est professionnalisé, on va dire, vraiment drastiquement dans les années 70 avec la CEP, qui a coproduit le dessin animé des Schtroumpfs avec Hanna-Barbera. Et le problème, c'est que c'était coproduit. Et quand la CEP s'est arrêtée en 1989, il y a Léon Peraya qui a décidé de créer un studio qui était Dupuis Audiovisuel en France, parce que la France permettait cette création-là, parce qu'il y avait des subventions. Donc le premier studio d'animation, on va dire, de la dernière génération, a été parisien. Et ce n'est que quand le tax shelter a été mis en place qu'il y a pu y avoir un développement de l'audiovisuel en Belgique avec des coproductions. Mais ce qui est intéressant, ce qui est plutôt amusant, c'est que...
Non, mais là, t'es en train de spoiler tout notre livre.
C'est vrai. Ah oui, t'as raison.
Quelques mots sur le wokisme. Bon, tribunal des réseaux sociaux, selon vous, faut-il écarter des œuvres plutôt que finalement les remettre dans leur contexte? Est-ce qu'on allait arriver à craindre des épisodes comme l'autodafé de Berlin?
Alors, pour ce qui est de la remise en contexte des œuvres des années 40 ou des années 50, il y a quand même eu une politique dans le patrimoine Dupuis, maintenant depuis plus de 10 ans, qui a été précisément d'accompagner les œuvres anciennes d'un consistant travail historique qui permet de les remettre dans leur contexte. Si elles sont bêtes, même pour l'époque, de le dire. Si elles sont intelligentes, même pour l'époque, de le dire aussi. Mais donc le travail patrimonial consiste précisément à préserver les œuvres et les représenter telles qu'elles ont été faites à leur époque. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70, quand le patrimoine s'est développé, parce que les documents manquaient, les planches ont été quasiment redessinées, faute d'originaux. Avec le travail de Christelle et Bertrand et l'évolution de la technologie, il y a eu des œuvres comme celle de Jigé qui ont pu être reproduites dans leur jus à partir des publications. Donc non, les œuvres anciennes n'ont pas du tout vocation à être écartées.
Et c'est en ça que le travail patrimonial qu'on peut faire est très important, parce que justement ça permet de comprendre et de ne pas tout jeter bébé avec l'eau du bain.
Il semble que l'ombre de la guerre soit quand même quasi permanente chez Dupuis, et même maintenant avec les auteurs comme Bravo, Morvan, qui nous parlent de cet autre, centenaire de Madeleine Riffaut. C'est dû à quoi cette...
Alors, dans un premier temps, il y avait l'intérêt des auteurs pour la guerre passait dans des récits de fiction. Parce qu'il fallait exorciser un peu tout ça. Je pense à la première génération, tous les je pense aux Spirou, je ramène ça à Spirou, les QRN sur Bretzelburg, etc. C'était fait par des jeunes qui avaient connu la guerre et qui avaient besoin d'en parler. Et aujourd'hui, c'est des auteurs qui n'ont pas connu la guerre, qui ont cette chance-là, mais qui la sentent venir autour d'eux, qui sentent le monde vibrer, le monde, même si nos pays ne sont pas en guerre sur le terrain, on voit bien ce qui se passe autour de nous, et ils ont envie d'alerter la jeunesse et de dire attention, attention, attention.
Voilà. Finalement, Spirou, c'est quand même un personnage inventé en 1938 qui très vite du coup est un personnage de guerre, en fait. C'est un personnage qui a traversé la Seconde Guerre.
Quand on voit Didier Suezen avec son GI Gay, de nouveau on replonge dans cette...
Parce que ça s'appelle un traumatisme aussi. Ouais. Et un traumatisme autant pour ceux qui l'ont vécu que les générations à venir.
Dans votre chronologie, on n'a pas toujours tout été rose, notamment le problème de MDS Fleurus qui en mars 2024 a dû fermer. À l'inverse, on terminait sur quand même une note optimiste en juillet avec Amazing Comics à San Diego et l'annonce donc de cette nouveauté, ce nouveau départ. C'est quoi c'est...
Alors oui, alors l'intérêt de la chronologie, ça a été précisément d'aborder des aspects de la société qu'on aborde très rarement lorsqu'on fait l'histoire de la bande dessinée. Vous évoquez MDS Logistics, et en fait, cette importance de la distribution et de la diffusion dans l'histoire de la bande dessinée, elle est très souvent sous-estimée, alors que le diffuseur, le distributeur est capital dans l'économie de la bande dessinée. Et une des choses intéressantes dans cette chronologie, ça a été précisément de mettre le doigt sur ces aspects-là. Par exemple, en 1967, quand Dupuis est passé chez Hachette pour diffuser ses livres en France, il a dû abandonner la vente de ses fameux latex et produits dérivés pour les confier à d'autres. Donc finalement, le diffuseur distributeur, parce que Hachette ne diffusait pas les jouets. Donc finalement, le diffuseur distributeur, il est véritablement capital. Quand ils ont ensuite créé Dupuis Logistics, bien des années plus tard, ça a été aussi une manière de garder la main sur le marché néerlandophone. Et finalement, malheureusement, à cause du décès d'Alexis Dragonetti, il y a eu la perte d'une partie de ce marché néerlandophone qui se solde par la fermeture de MDS. Mais je pense que c'est précisément une des choses sur lesquelles on a eu raison de s'arrêter, parce que c'est un aspect peu exploré de l'histoire de la bande dessinée. Quant à la note positive avec Amazing Comics, ça fait partie, je pense, des enjeux de la direction actuelle, qui est un des enjeux posés par Jean Van Hamme quand il était directeur de Dupuis, à savoir l'école de Marcinelle bégaye dans son style. Il faut passer à des choses nouvelles. Et depuis 1988, en fait, Dupuis cherche à s'ouvrir à de nouvelles identités graphiques. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre ouvrage. Les mangas en font partie, les comics en font partie, et voilà.
Christelle David, un grand merci. Donc on rappelle La véritable histoire aux éditions Dupuis, sortie, et super idée comme cadeau.
Dans toutes les bonnes librairies, avec plein de belles images, etc. Excellent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.